sea peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin.
Oh, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Et Jean-Yves.
Vous avez bien raison.
Voilà. Alors, on se trouve 5 autour de cette table et tout le monde est en forme pour se mettre en selle pour 25 minutes.
C'est parti.
Oui.
Oui, Gillian dit oui, donc on y va. Alors aujourd'hui, on va prendre le cheval au mot et c'est le mot felouk. Alors, il est intéressant de constater comment le cheval a pu être à l'origine de mots qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux. C'est le cas du mot felouk. Vous savez, ce navire à voile de taille réduite que l'on trouve encore aujourd'hui en Méditerranée orientale, notamment en Égypte, et qui sert aussi bien au transport des marchandises qu'à celui des passagers. Alors, notre langue a récupéré le mot vers le XVIe siècle au catalan falouka, sous la forme flouk ou falouk, ça fait un peu plouf, hein, une variante du castillan faloua, utilisée vers la fin du XIVe siècle. Mais alors, vous allez me demander, quel est le rapport entre ce petit voilier de charge et le cheval, hein?
Ben oui, on est ravis de l'apprendre.
Eh ben voilà, encore une fois, c'est la langue arabe qui va nous fournir la réponse. En effet, l'espagnol faloua est l'exacte transcription de l'arabe faloua. Faloua en espagnol, faloua en arabe, qui désigne, 1, 2, 3, une pouliche.
Ah, tiens.
En arabe, une pouliche se dit une faloua.
Donc c'est sur le Coran, parce que le Coran retrace et
voilà. Donc il y a un rapport.
Il parle beaucoup de choses du cheval.
Voilà. Alors comme quoi les Grecs de l'Antiquité, eux aussi, ne se trompaient pas quand ils considéraient que les chevaux, animaux marins, avaient été créés par Poséidon, le dieu de la mer, le Neptune des Latins, et que de leur crinière naissait l'écume des vagues.
Ah oui.
Très joli ça.
Alors, aujourd'hui, on va aborder un bonhomme un peu ancien, l'homme de Néandertal. Alors, dans un ouvrage publié en 1882, La préhistoire, origine et antiquité de l'homme, l'archéologue et préhistorien français Gabriel de Mortillet décrit en ces termes l'homme de Néandertal. Alors, je cite. Le groupement de caractères simiens, donc de singes, dans la race des Néandertal prouve clairement que l'homme primitif se rattache aux singes. Mais si la race de Néandertal a disparu, elle ne l'a pas fait sans laisser de traces. De nos jours encore, on voit de temps à autre réapparaître par atavisme le type de Néandertal. Alors l'atavisme, vous le savez, désigne la réapparition de caractères ancestraux après un nombre indéterminé.
Mais j'étais encore à l'époque des têtes plates, là.
Des têtes plates, voilà, c'est cela, celle qui pour le béret, pas pour le casque à pointe. Alors, Gabriel de Mortillet poursuit, outre les exemples toujours très rares et fort exceptionnels, bien que suffisants pour prouver que certaines de nos races actuelles se rattachent à celles de Néandertal, il y a fréquemment des cas de réversion partielle. Et il continue, l'étude d'une belle série de crânes de criminels qui se trouvaient à l'exposition des sciences anthropologiques de 1878, alors c'est marrant, hein, il y avait les crânes des criminels comme ça qui étaient exposés, donc a reconnu sur eux, d'une manière presque constante, des caractères néandertaloïdes. Les arcades sourcilières étaient assez généralement très développées, c'était souvent la partie postérieure du crâne qui prenait chez ces criminels un développement considérable et plus ou moins néandertaloïde. Et le préhistorien d'affirmer, ne pouvons-nous pas en conclure que l'homme de la race de Néandertal devait être violent, colère et bataillard.
Ils se mangeaient entre eux encore.
Non.
Non.
Eh ben non, parce que pour Néandertal, c'est quand même un drôle de début dans sa notoriété. Avant, on le connaissait pas, et on le connaît sous des traits effectivement assez épouvantables. Alors, il faut dire qu'à cette époque, l'archéologie préhistorique, ou plus exactement l'archéologie paléolithique, est une science récente d'origine française, née au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, sous l'impulsion de Jacques Boucher de Perthes, qui découvre en 1844 des outils de silex près d'Abbeville, dans le département de la Somme. Et alors, ce qui est amusant de voir, c'est qu'à cette époque encore, beaucoup croient que ces étranges pierres de silex, donc ces outils, que l'on nommait à cette époque-là pierres d'orage, étaient créées par la foudre. on pensait que c'était, quand il y avait un gros orage, il y avait ces pierres qui descendaient, ces pierres d'orage, donc provoquées par l'éclair, par la foudre. Alors, influencé par les travaux du naturaliste Jean-Baptiste Lamarck, à partir desquels Charles Darwin, élaborera sa théorie sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, Jacques Boucher de Perthes contribuera à remettre en cause les thèses bibliques sur l'origine de l'homme. C'est à cette époque et dans ce contexte donc que réapparaît au monde Homo sapiens néandertalis, Neanderthalensis, et en 1856, en effet, on découvre un crâne fossile dans une grotte de la vallée de Néandertal, située en Allemagne occidentale, près de l'actuelle ville de Düsseldorf. Alors, d'autres ossements ayant les mêmes caractéristiques seront retrouvés par la suite dans l'ensemble de l'Europe, le sud de la Grande-Bretagne comprise, la Russie jusqu'aux rives de la mer Noire, au mont du Taurus sur le versant méditerranéen de la Turquie, enfin au Proche-Orient. Sa présence sur Terre sera longue, environ 200 millénaires. 200 millénaires, entre moins 250 000 et moins 40 000. Alors, durant cette immense période, les Néandertaliens auront dû s'adapter à des climats tour à tour plus chauds que notre climat actuel, mais également à des périodes glaciaires particulièrement entre moins 70 000 et moins 60 000, avec un sol gelé en permanence jusqu'à la Loire. Donc, c'est gelé, hein. gelé, comme la Sibérie. Une période pendant laquelle les glaciers des Alpes recouvrent la ville de Lyon, par exemple, une grande partie de la vallée du Rhône, donc ma pauvre Gilliane était sous la glace, là, hein. Et atteignent pratiquement la Méditerranée dans la région de Nice. Hein. C'est-à-dire les glaciers descendent jusque vers le Lazaret, enfin dans la région de Nice. Donc un peu plus, ils se jettent dans la Méditerranée. Donc voilà. Et une des conséquences de ces glaciations sera un abaissement du niveau des mers de près de 60 mètres, ce qui est énorme, et la formation d'une banquise continue couvrant l'ouest du Danemark, une partie de la mer du Nord, la totalité de la Manche, une partie non négligeable du golfe de Gascogne, la totalité du golfe du Lion et la majeure partie de la mer Adriatique. Et de la même façon, il était possible de passer à pied sec de la Corse à la Sardaigne ou franchir le détroit de Messine entre la Sicile et le sud de l'Italie. De la même façon, le pont Euxin, donc entre la Turquie et Constantinople, bon, on pouvait passer à pied sec, oui. Mais à pied froid, par contre, parce qu'il faisait chaud.
Pas alors, très agréable de vivre dans ces conditions.
Ben voilà. Alors, justement, donc, ayons une pensée émue pour Néandertal, justement, après cette rapide description du territoire où vivait Néandertal, présentons un peu le bonhomme. C'est un solide gaillard. Si sa taille est plutôt modeste, aux alentours d'1m70, hein, il est ni très grand ni très petit, il est solidement bâti, hein. Ses os sont relativement courts, à l'exception des clavicules, mais massifs avec des attaches musculaires puissantes. À la différence de l'homme moderne, donc, qu'on appelle Homo sapiens sapiens, avant on l'appelait homme de Cro-Magnon, voilà, bon, les archéologues ont un petit peu, les historiens ont un petit peu modifié. La cage thoracique de Néandertal est large et s'évase vers le bas, ce qui implique une grande capacité pulmonaire.
Hein. Et les jambes un peu arquées aussi.
Non, pas
du tout.
Non, courtes mais pas arquées. Ah. Alors, donc, le bonhomme devait avoir du souffle et une grande résistance à l'effort physique, effectivement, avec une telle cage thoracique, ça devait y aller. Il a le crâne plutôt allongé et assez large, d'une capacité égale ou légèrement supérieure à la nôtre, donc autour de 1750 cm3, même si l'on note une organisation encore archaïque de l'avant et des deux lobes frontaux, c'est-à-dire qu'on a un petit peu ce qu'on appelle ce que les généticiens appellent le fossé frontal, c'est-à-dire que le crâne de Néandertal est mieux organisé, plus moderne à l'arrière, mais sur le devant, c'est un petit peu moins formidable, quoi. L'informatique est moins.
Voilà pourquoi je te parlais des têtes plates.
Alors, son front est fuyant, marqué par de fortes arcades sourcilières. Son menton est effacé. On pourrait même dire qu'il n'a pas de menton du tout.
Il ressemble au gorille un peu, quoi.
Oh. Heureusement que j'ai pas amené Néander, parce que là, il aurait gueulé, hein. Sa mâchoire est dotée de dents volumineuses, une caractéristique qui dénote une alimentation plutôt carnée. Et Néandertal est en effet, selon le climat, les lieux et les saisons, un redoutable mangeur d'orogues, de bisons, de cerfs, de bouquetins, de chevaux, de rennes, d'antilopes et de poissons. Et à l'occasion, il pourra ajouter à son menu un éléphant, un rhinocéros ou encore un ours.
Oh là là.
Ouais, il mange. Enfin, impossible de terminer le portrait physique du bonhomme sans parler de son nez. Ah, le nez de Néandertal, un nez long et massif. On pourrait dire un pif à désobliger.
Pas du tout la morphologie d'un cavalier, alors.
Ah, si, pour fendre la bise, mais lui, c'était plutôt Rabelais. Mais enfin, bon, vraiment un pif à désobliger tous les Cyrano de Bergerac. Hein. Cyrano de Bergerac, qui peut se rhabiller parce que, franchement, Néandertal le bat. En fait, côté intellectuel, Néandertal est tout le contraire d'un imbécile. Hein. Hein, malgré, comme tu dis, Jean-Yves, ses jambes tordues, son front plat, etc. C'est pas un imbécile. Il maîtrise le langage comme le prouve la conformation de son os hyoïde, voilà, qui, non, hyoïde, ah, ce petit os en forme de fer à cheval, hein, ça s'invente pas, que nous possédons tous à la partie antérieure de notre cou et sans laquelle nous ne pourrions pas former de mots. Impossible de parler si on n'a pas ce petit nonos en forme de fer à cheval. Et en second lieu, sa capacité à organiser des chasses collectives au gros gibier pendant la belle saison pour accumuler des stocks de viande et anticiper la pénurie des mois d'hiver. Donc il ne faut pas être crétin pour faire ça.
Le mammouth ou le...
Ce qu'il trouvait, oui, mais du gros gibier, voilà, pour faire des carrières de viande. Alors, il perfectionne l'efficacité de ses armes de chasse en mettant au point une méthode particulièrement élaborée de taille de silex, la méthode dite de débitage levallois. Et alors, c'est important, là aussi, il a le sens de l'économie, parce que cette méthode permet d'obtenir plus rapidement et en plus grand nombre des lames tirées d'un même bloc de silex, comme cela a été observé normalement, notamment sur un site découvert dans notre département, on en parlait tout à l'heure, près de Sévérac-le-Château. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le même morceau de silex, il fait 3 fois plus de lames que ses prédécesseurs. Donc c'est aussi pas mal. Hein. Et c'est Néandertal aussi qui, le premier, prend soin, et là aussi ce qui est quand même une grande preuve d'intelligence, prend soin de ses morts en les enterrant, refusant de les abandonner aux charognards. Et on trouve des tombes néandertaliennes avec de l'ocre, donc qui est du manganèse, voilà, de la poudre d'ocre, et qui conserve un petit peu les cadavres. Et surtout, ce que ont retrouvé les paléontologues, énormément de pollen de cheval. C'est-à-dire que Néandertal mettait des fleurs, comme nous on met aussi des fleurs au cimetière. Donc, est-ce qu'il était aussi frustre que ça, le bonhomme ? Question. Moi, je ne pense pas. Mais on va s'accorder maintenant une pause musicale à Aires de la Triana avec Nino Ricardo et Melchor de la Marchena. Alors, le messager du cheval a le plaisir de retrouver aujourd'hui une cavalière émérite qui est actuellement en résidence au Haras de Rodez, hein, voilà, avec deux de ses chevaux, Alvarito et Ibero. Et donc, cette cavalière suisse, hein, formidable, s'appelle Gilliane Sen. Bonjour, Gilliane.
Bonjour.
Et puis, celui qui devient un peu notre vieux complice.
Un habitué.
Voilà, Jean-Claude Adelin, que je ne présente plus, n'est-ce pas,
hein? Bonjour.
Voilà. Et bien évidemment, Jean-Yves Bonnet.
Mais c'est donc un plaisir de les accueillir dans cette émission. Parce voilà. Ils sont pleins de connaissances, et ça, c'est intéressant.
Alors, justement, j'ai en face de moi une cavalière et deux cavaliers, tous aussi émérites les uns que les autres, cavaliers de spectacle, cavalières de spectacle. Alors, déjà, Gilliane, si tu pouvais nous expliquer en deux mots quel a été un peu ton parcours. Comment une petite fille qui naît en Suisse, se dit, tiens, les chevaux, c'est pas mal, moi, j'aimerais bien faire un truc avec.
Bah, les chevaux, ça fait depuis l'âge de 8 ans que je monte à cheval. Et j'ai cherché vers l'âge de 18 ans à avoir une autre relation avec la jument que je m'occupais à l'époque. J'ai découvert l'approche plutôt naturelle du cheval, donc une approche très douce et avec laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans et grâce à laquelle je suis arrivée en France et dans les haras nationaux.
D'accord. Alors, je crois que le haras de Rodez n'est pas ton premier point de chute, question haras nationaux. Tu étais avant au haras de Beaune, je crois.
Non, au haras à Cluny, Bourgogne.
À Cluny, oui, c'est cela. Et donc là, c'était ta première expérience dans un haras en France et aussi avec le système des haras français. Enfin,
Oui, à Cluny, je suis restée 2 ans et ça a été ma première expérience, une grande expérience pour moi qui m'a permis aussi de reformer mes deux chevaux que vous avez cités avant. Alvarito et Ibero, Carvani n'était pas ma jument à moi, donc mais grâce à elle, voilà, ça m'a ouvert toutes ces portes des haras. Et...
Alors, Alvarito et Ibero, tu vas nous expliquer, c'est quoi comme chevaux? Je suppose que ce sont des Andalous, ce sont des Portugais. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu en deux mots?
Si je vous les présente de papier, c'est des origines inconnues, mais c'est des petits Espagnols qui ont 7 ans maintenant. Donc, c'est des jeunes chevaux au caractère très, très, très différent. Mais ce sont mes petits chéris à moi.
Ce sont tes petits chéris à toi. Oh, pardon, je t'ai tutoyé là.
On ne monte pas sur les papiers, on fait du racisme avec les chevaux, c'est dommage.
Mais tout à fait.
Les chevaux méritent considération. Hein.
Ce qu'il faut quand même signaler aussi, c'est que Gilliane, elle a été artiste résidente à Cluny, et donc là, au Haras de Rodez. C'est important de dire en fait qu'on est aussi artiste résident, parce que c'est quand même ça qui permet aussi qu'on peut monter des spectacles, qu'on peut travailler avec des chevaux dans de bonnes conditions. Et c'est quand même c'est une grande chance de pouvoir faire ça. Hein.
Alors justement, au point de vue spectacle, au fond, et là je m'adresse à vous trois, puisque vous êtes à la fois des cavalières, cavaliers, hommes de spectacle, enfin bon, cavaliers complets si je puis dire. Dans le cas par exemple des résidences, qui décide quel spectacle va être fait, quel numéro va être fait?
Là, c'est le directeur qui décide. Hein.
C'est le directeur?
Non, pour moi, c'est nous qui décidons les numéros qu'on a envie de créer, parce que on peut pas créer quelque chose qu'on n'a pas envie, et aussi de par les performances de nos chevaux. Et
voilà, ils sont acceptés ou ils sont pas acceptés, un des deux. On présente nos numéros, et puis bon, si ça plaît au directeur ou à la personne qui est responsable, on passe nos numéros.
Non, pas spécialement. Tu me diras si je me trompe, Gianni. Mais en fait, le directeur, il décide si on fait des cabarets ou pas à certaines époques, à certaines saisons, quand même, non? Nombre de représentations qu'on fait. Comme là, Claude Muisset du Haras de Rodez. Donc, il a créé les cabarets d'été, c'est ça, il y a à peu près 9 dates. Hein. Et puis, il y a 5 dates pour Noël. Hein.
Mm-hmm. Mais alors, la question, alors, je vais
peut-être... c'est les artistes, comme disait Gianni, justement, qui créent leur numéro, spectacle. Mais bon, il y a quand même une mise en place.
Et qui se présente un concours, parfois, puisqu'il y a des concours à peu près partout maintenant, que ce soit à Méjane, que ce soit au Sainte-Marie-de-la-Mer, que ce soit partout dans les hauts lieux où il se passe des choses avec les chevaux. Donc, on rivalise et on se présente au concours. Oui. Donc, on a des numéros qui sont primés ou d'autres qui ne le sont pas. Et puis, voilà, c'est une...
Donc, en fait, le spectacle est créé en fonction du lieu, en fonction du spectacle en lui-même. Vous n'arrivez pas, vous, artiste, cavalier, forcément avec un spectacle déjà créé. Vous vous adaptez au lieu où vous le faites, avec le temps de le préparer, de le mettre au point. Alors, Gilliane?
Non, pas spécialement, parce que, enfin, moi, à Cluny, je suis arrivée, j'avais un numéro que j'avais déjà présenté ailleurs et grâce auquel j'ai été repérée pour venir dans les haras nationaux. On ne nous oblige pas d'avoir un numéro fait pour entrer dans les haras nationaux. Et après, c'est vraiment... ça doit sortir de notre cœur, le numéro qu'on a envie de créer. Donc, personne ne nous imposera vraiment le thème du numéro, le lieu où on va le jouer ou tout
c'est
ça.
Mais alors, ce que je veux dire aussi, peut-être, Jean-Claude, c'est que les numéros aussi vont pouvoir évoluer en fonction de l'endroit, en fonction du moment, etc. Donc, il y a bien évidemment une liberté absolue.
Bien évidemment. On a pratiquement une totale liberté. La petite contrainte qu'on a, c'est quand même de les faire. Mais à partir de là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que on crée nous-mêmes les numéros. Donc là, pour Noël, on va créer donc un numéro. Donc avec Gianni, on est en train de se pencher sur une histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on a envie de créer Noël pour les enfants, pour les grands? Voilà. Et donc à partir de là, il y a un budget qui est quand même un petit peu décerné à ça. Donc on essaye aussi un petit peu de pas dépasser le budget. Il faut quand même rentrer dans des cases. Et à partir de là aussi, on peut engager d'autres artistes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, il n'y a pas que nous deux. Donc il y a d'autres artistes qui viennent d'Albi ou qui viennent un peu d'ailleurs, que Gianni connaît très bien, parce que Gianni a fait, ce qu'il faut dire aussi, énormément de spectacles. Elle fait aussi du spectacle en dehors du haras.
Oui, tu as beaucoup tourné, donc Gilliane. Hein.
Là, ouais, cet été, ça a été une bonne saison pour moi. On est un peu tous fatigués en ce moment, mais ça va bien, quoi.
D'accord, un peu fatigués, mais ça va bien. Et les chevaux, ils tiennent le coup, eux, ça va?
Oui, c'est vrai que pour nous, ça a été notre plus grosse saison cette année. Et là, j'avais un de mes deux chevaux qui fatiguait, donc là, vraiment, ils ont eu une semaine de pause. Total.
Repos
pour eux,
dans les grands prés, en plus, voilà. du haras de Rodez.
Et ça, il faut le signaler, parce que c'est quand même une lettre de noblesse que peuvent avoir quand même certains artistes, dont Gianni, c'est de pouvoir faire reposer les chevaux quand ils sont fatigués.
Bien sûr.
Et de pas tirer dessus, de pas tout le temps aller à chercher la performance, chercher un cachet en plus. Elle, ses chevaux sont fatigués, elle refuse de faire un contrat.
Alors ça, je pense que ça, Jean-Yves, ça doit te plaire.
Mais la Ligue pour la protection du cheval, on est ravis, bien sûr.
La Ligue, c'est, on vient d'entendre la voix de la Ligue de la protection du cheval par la bouche de Jean-Yves Bonnet.
Ben oui, puisque je suis le responsable départemental, je pourrais
te
le
dire. Oui, tout à fait.
Je suis toujours pensé sur le sort des chevaux, et je crois que dans mon livre, j'en parle, et je crois que c'est la première des choses, c'est préserver le cheval.
On peut parler aussi peut-être deux petites secondes de ce que fait Jeanne, parce qu'elle fait quand même des choses extraordinaires. Hein, c'est quand même une artiste de 25 ans, je vais le dire parce que peut-être elle va peut-être pas oser, mais elle a quand même plusieurs cordes à son arc et avec quand même un grand talent. C'est-à-dire qu'elle fait de la poste, donc elle est debout sur les chevaux. Elle monte des chevaux en totale liberté dont on parlait l'autre fois. Oui. Il n'y a rien. Rien du tout. Avec quand même un cheval espagnol qui a du sang, qui a du jus, qui a de la prestance, qui a de la puissance. Faut quand même le faire. Elle monte aussi, donc, en dressage classique et elle fait aussi de la liberté au sol avec deux chevaux. Et elle fait aussi de la voltige.
Et elle fait, voilà. Et alors justement,
elle fait de l'éducation de la joie. Et ça, c'est important.
Voilà. Et donc, Gillian, tu as la double casquette, si je puis dire, donc cavalière classique en quelque sorte, et puis aussi cavalière sans rien, tu montes sans reine, tu montes sans rien, vraiment sans selle, sans rien. Comment tu es arrivée à cette logique-là?
C'est le désir de communiquer. Je vais parler pour elle.
Ouais, exactement.
Et ça, tu aimes.
Non, mais c'est exactement ce qu'il dit, c'est chercher autre chose et avoir un amour un peu trop fort pour les chevaux et vouloir ne pas les monter en CSO ou les monter très enraînés. Voilà, c'est vraiment le désir et l'amour du cheval.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance. Une alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, comme Gillian et comme Jean-Yves, évidemment, et comme Jean-Claude, bien sûr, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toi, Gillian, d'être venu nous éclairer sur ta thèse, ce que tu fais au Hara de Rodez en particulier actuellement. Donc, tout le monde est quand même invité à aller voir Gillian. Et évidemment, Jean-Claude Alain, qui lui aussi est là. Donc, vraiment, les ruténois, les ruténoises, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, merci donc à toutes et à tous de nous rester fidèles.
Oui, alors je veux juste dire une petite chose là pour boucler, tu vois, la petite intervention de Gillian par rapport à la passion et au désir et à l'envie de travailler avec des chevaux en liberté, c'est-à-dire que quand même c'est une des rares artistes à part Jean-François Pignon qui le fait, que je vois qu'elle se promène avec ses chevaux sans rien. Elle se promène dans le haras, il y a du monde, il y a des gens, il y a des manifestations, il y a des voitures, il y a des tracteurs, il y a de tout. Les chevaux sont pas attachés, ils sont toujours avec elle. Elle peut les emmener au box, elle peut les emmener au pré, elle peut les emmener au manège, à la carrière. Les chevaux sont toujours là avec elle.
Et bien, c'est extraordinaire, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui passe entre tes chevaux et toi. Et ben alors, Gillian, ben tu vas conclure l'émission.
Un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Hey, hey, partis les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain Pèlerinal. Hey, hey. C'est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey, non, 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 non. Hey, hey, marche droit et souris. Ton cheval est un ami pour t'aider à trouver le vrai sens de